Je suis ravi de venir avec ma casquette d'enseignant-chercheur sur ces questions d'analyse de l'activité, analyse des pratiques, développement professionnel, avec toute cette difficulté de sémantique, d'usage des mots, parce qu'un mot ne peut pas remplacer un autre. Je suis actuellement en train de réfléchir à la production d'un article à l'international, donc dans le Journal of Workplace Learning, hein, qui est une revue importante sur l'analyse du travail par le travail, etc. La notion de développement professionnel en anglais n'existe pas. Donc, comment on va faire pour pouvoir mettre en avant cette notion de développement professionnel en rentrant par une activité? Il y a un brouillage, il y a une polysémie très compliquée au niveau des concepts. Donc, d'arriver à faire dans ce parcours, dans ce dédale d'épistémologies différentes, un peu d'ordre pour arriver à créer des cartographies, à comprendre des espaces, et puis après à utiliser des outils de manière. Alors, ces mots-là sont suremployés, et je vais les employer ici une fois, mais on les utilise beaucoup au niveau de l'IFE, hein, ces notions d'ergonomie au départ, et puis Tricot les a reprises après, ces notions d'utile, utilisable, acceptable, pour qu'elles soient utiles pour les collègues en formation, donc il y a vraiment une utilité liée à une praxéologie, une possibilité effectivement d'atteindre un but. L'utilisabilité correspond plus cette fois-ci à la notion d'ergonomie et de capacité à mettre en main ou en tout cas à faire de cet outil quelque chose qui soit à la fois économe dans l'usage et pas trop complexe dans la façon d'utiliser les choses en termes de procédure et puis acceptable par rapport à un monde du travail, par rapport à une culture du travail. Par exemple, d'utiliser la vidéo formation pendant des années, je continue d'avoir encore des réactions par rapport à sa propre image, du respect de l'image d'autrui, des questions même déontologiques assez importantes. Donc voilà, acceptable dans un milieu professionnel, ça évolue, mais ça peut être aussi une question fondamentale. Vous avez ici une enseignante. Je suis dans la classe, je suis observateur, alors avec une casquette de bienveillante, d'accompagnateur ou d'accompagnatrice. Je ne suis pas inspecteur, alors je sais pas, bien sûr, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, mais observer quelqu'un avec directement un but d'évaluation sanction par rapport à un diplôme ou par rapport à une accession à un statut, ce n'est pas exactement la même chose que d'accompagner un jeune ou une jeune collègue dans l'entrée dans son métier ou dans ses premiers pas professionnels. Ici, donc, je suis en observateur et je me dis, que fait cette collègue-là? À quoi elle pense à ce moment-là? Est-ce que je peux, par l'observation extrinsèque, en point d'extériorité, avoir une vision très claire de sa conscience, de ce qui se joue dans sa tête à ce moment-là? Donc, la collègue dit dans sa tête, je ne parviens pas à lire ce qu'il a écrit. Je ne sais pas comment l'aider. Est-ce que vous voyez ici, dans cette posture très proche, dans cette proxémie ici, ce doute? Le deuxième point. L'important, c'est ma présence, lui montrer que je suis là pour l'encourager. Donc, on n'est pas du tout sur des éléments même cognitifs ou didactiques, on est vraiment sur cet accompagnement d'un élève particulier. Je m'aperçois qu'il n'a pas du tout compris la consigne et qu'il faut que je la redonne à toute la classe. Donc, c'est au désarroi, rien n'a été compris, je vais perdre 10 minutes par rapport à ça. Une autre piste, je tente de vérifier son travail, mais je suis surtout attentive au bruit dans mon dos. Vous voyez cette capacité à avoir ses yeux dans le dos et d'être plutôt préoccupé par des groupes perturbateurs ou par rapport à l'avancée du travail qui ne va pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait qu'il avance. Là, c'est un peu la panique. Je ne suis pas avec lui, en fait. Pas du tout avec lui. Je pense à l'organisation du prochain exercice avec autant d'élèves absents. J'ai eu tellement de situations dans ma thèse et dans mes travaux sur les enseignants débutants, de jeunes collègues qui étaient dans une forme de faux-semblant, de jeu de dupes et qui souriaient alors que tout allait mal. En pleine tempête, avec un grand sourire, tout va bien, alors qu'ils étaient absolument décomposés à l'intérieur. Comment faire en sorte que l'observation soit fiable et qu'on puisse avoir un regard fiable sur l'activité enseignante alors qu'elle est excessivement complexe, intime, subjective, avec 200 décisions ou micro-décisions à l'heure, avec des shifts, des bifurcations, des doutes, des confirmations? Et que si je ne mène pas une enquête particulière pour comprendre que pense cette enseignante-là, je peux passer à côté. J'ai eu souvent ce genre d'atelier en direct avec des inspecteurs, des formateurs, formatrices, qui regardaient les premières vidéos de NeoPass Action et qui avaient des propos totalement orthogonaux, avec des interprétations ou des surinterprétations, en me disant, mais non, mais cette collègue est très à l'aise, on voit qu'elle maîtrise complètement, mais pas du tout, elle est au fond du seau. Et c'était assez incroyable de voir comment des collègues très spécialistes de l'enseignement ne s'accordaient absolument pas, étaient en décalage total par rapport à l'observation. Ceci pour vous dire que pour moi, l'observation n'est pas suffisante. Elle va étayer une enquête, mais il va falloir absolument écouter le professionnel ou la professionnelle en première personne. On peut imaginer que l'observation, elle soit dans un premier temps complètement de l'ordre d'une immersion totalement passive. Et je l'ai même moi-même vérifié lorsqu'on est dans la classe et qu'on se retrouve dans une ambiance tellement ordinaire, tellement familiale, tellement c'est lié à notre culture, à notre biographie. On a passé plus de 10 000 heures sur les bancs de l'école, hein. Les chiffres ont été vérifiés. Que de revoir un enseignant ou une enseignante dans sa classe, ben c'est quelque part ce qu'on a vécu depuis qu'on est sur les bancs de l'école de la maternelle, et que c'est assez difficile dans cette situation professionnelle que tous les Français, Françaises ont vécu. C'est pour ça que chacun aussi a une opinion très claire sur la façon d'enseigner et d'apprendre à l'école. Ça peut être absolument sans effet et absolument pas producteur de connaissances nouvelles. L'activité enseignante peut être totalement transparente. C'est un métier qui peut nous échapper tellement il est présent dans notre conscience et dans notre biographie. Ça peut être au contraire, et on a aussi ce genre de situation, ça peut être des moments où au contraire on est embarqué dans l'activité d'autrui et on est dans une forme soit d'empathie ou de compassion. Je fais la différence ici entre l'empathie, dans une capacité à cerner les sentiments ou discerner les sentiments d'autrui, et compassion de vivre avec lui ses affects, ses émotions, etc., l'expérience potentiellement douloureuse. Et là aussi, on peut avoir une forme de difficulté à se départir et d'être un peu objectif par rapport à ce qui se joue dans la situation observée, de par ce temps qui se distend, ces émotions fortes que vous percevez vous-même en vivant cette situation-là, en ayant vous-même les mains qui tremblent, ou en tout cas en ressentant assez vivement ce que pourrait ressentir la personne. Alors qu'on peut être en décalage aussi, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et puis après, il peut y avoir une approche peut-être plus fine, peut-être plus distanciée en même temps, mais qui correspond à une approche qui devient en résonance avec. C'est-à-dire que là, il y a tout d'un coup quelque chose qui se joue. Ce n'est pas moi que j'observe, mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire ici, ce décalage entre le fait que la personne est étrangère à mon activité, mais pas totalement étrangère. Et c'est dans cette médiation, dans ces registres de gris, qu'on repère des éléments ressemblants, des éléments dissemblants, qu'on commence à voir une autre personne qui me ressemble, un autre comme soi-même, et peut-être des rapprochements par rapport à sa propre activité, soi-même comme un autre. Avec toute la tendance aussi, dans cette proximité avec des gradients éventuellement de ressemblance, de décrire l'activité et de projeter des conseils pour cette personne-là à l'aune de ses propres préoccupations. Alors, j'essaie de mettre en avant le fait que l'observation montre ses limites ou ses réserves. On l'a vu tout à l'heure juste sur la situation d'observation. Et ici, entre une incapacité à catégoriser et à repérer des éléments saillants, dans le premier cas, un embarquement ou une affection forte faisant que je ne suis pas totalement objectif, ou au contraire, une expérience d'observation qui génère de la résonance et de la comparaison de proche à proche, mais qui renvoie à mes propres préoccupations, on voit bien qu'ici, on est à chaque fois sur des biais assez importants par rapport à l'observation. Comprendre l'activité du point de vue des acteurs, ça fait des années et des années que j'utilise cet iceberg, hein, qui circule beaucoup dans la littérature et au niveau de nos équipes ici, c'est d'insister sur cette partie visible et invisible, hein, l'approche comportementale. D'aucuns diraient behavioriste, hein, on va s'intéresser à des comportements en étant en extériorité, sans être dans une introspection même par rapport à ce qui se joue en termes de phénomènes vécus, mais aussi l'activité invisible. Et on a vraiment dans notre analyse du travail, et c'est tout ce courant dont je vais vous parler maintenant, en analyse de tradition française, d'ergonomie de tradition française, on s'intéresse vraiment à cette face invisible, avec des perceptions, des connaissances, des croyances, des affects et des prises de décision qui sont à comprendre à l'aune des personnes en première personne. Donc ici, c'est l'activité fait expérience, produit de l'expérience, C'est donc sa dimension invisible. À partir des travaux de Jean-Paul Sartre, on est sur cette conscience pré-réflexive qui n'est pas un niveau enfoui de subconscient inatteignable, mais c'est au contraire tout ce que l'on embarque lorsqu'on agit, mais qui reste juste à la surface ou qui effleure à peine la surface, c'est-à-dire mes règles d'action, mes façons de faire, ce que je perçois de la situation actuellement, par exemple, si je joue avec. Si je renvoie ceci sur ma propre activité, c'est ici la difficulté à utiliser ce diaporama, à repérer des indices dans la salle. En fait, c'est pas complètement conscient dans mon activité, mais je me nourris de ces indices ténus pour pouvoir avancer dans ma propre activité. Et le travail de classe, c'est la même chose. On voit un élève, on voit une attitude, on ressent une ambiance, c'est de l'ordre du syncrétique. C'est flou, c'est global, c'est diffus. On prend des décisions et puis on pense à autre chose parce que ça enchaîne dans ces métiers où l'urgence est aussi quand même assez importante. Et en fait, on n'a pas forcément conscience claire de ce qui s'est joué à un moment donné. Soit on considère que ça n'a pas d'importance parce qu'on est dans le travail, qu'on a tant d'heures de cours et qu'on n'a pas le temps de revenir sur son activité. Soit on opère cette réflexivité sur sa propre activité, donc pour faire ce pas de côté. Dans un moment particulier, privilégié, sur une thématique particulière, sur un moment critique, je ne sais pas, et qu'à partir de là, on va pouvoir mettre en mots des éléments même dont on n'a plus conscience, mais qui reviennent en étant de nouveau face à la situation. Donc c'est déjà quelque chose qui me semble tout à fait important, c'est de dire que cette conscience qui est incorporée, automatisée, faiblement consciente, on peut la remettre à jour. Un débutant, et pas seulement les débutants, dans l'action, dans l'émotion, va agir de telle sorte, mais sans forcément avoir une pleine conscience de ce qui s'est joué. Donc peut-être aussi le sortir de l'émotion, à un moment donné, par des outils et des méthodologies, pour pouvoir mettre des mots sur, même si les mots au départ vont être très émotionnels encore. Notre jeune Romain, qui a maintenant 15 ans de plus, était tremblotant et avait beaucoup d'affect et revivait exactement les situations lors des entretiens, tel qu'il a pu le vivre en situation réelle. Donc ici, même l'activité experte est totalement automatisée et que de demander à des experts de décrire leur activité, c'est une façon de pouvoir rendre compte dans les finesses à grain fin de cette activité-là. Alors même que cette activité leur échappe, on a très souvent des situations où du très haut niveau en sport vont nous dire « moi je fais comme ça », alors que lorsqu'on revient sur un entretien d'autoconfrontation avec une vidéo, le praticien expert s'aperçoit qu'il ne fait pas comme ça. Ah ouais, je croyais que je faisais comme ça. Et en fait, dans l'urgence de l'action, dans l'automatisation de l'action, il y a des éléments qui échappent, ils sont complètement encapsulés, incorporés. Et donc c'est cette possibilité aussi, vous voyez, dans une approche, dans une enquête rétrospective, de pouvoir être sur des éléments même très fins de l'activité. Je le refais avec des enseignants, parfois un chevronné qui a une forme d'assurance qui me dit, Luc, dans mon cours, on ne négocie jamais. Jamais. On peut venir te voir dans la classe, pas du tout pour le mettre à l'épreuve, mais voilà, pour voir comment on fait pour pas du tout négocier dans son cours. Et puis, à chaque interaction, il y avait des micro-ajustements et des micro-négociations. J'en avais absolument pas conscience. Je travaille actuellement sur une thèse, je dirige une thèse avec Marc-Christine Masse, qui travaille sur l'expertise ordinaire en classe difficile. Les enseignants réussissants qui tiennent ces classes et qui font travailler ces classes de manière extraordinaire par rapport à toute la communauté éducative qui n'y parvient pas, n'ont aucune conscience de leur façon d'agir. C'est impressionnant de voir l'opacité et l'incapacité dans un premier temps. Mais tu te rends compte que sur 1 heure, tu t'adresses individuellement aux élèves sur tant de pourcentage par rapport à des moments d'observation, des moments de silence, etc. Et ça chamboule complètement leur propre idée de la façon de bien enseigner. On peut avoir des situations, bien sûr, hein, où on sauve la face, et c'est un métier d'interaction humaine, et j'ai plein de séquences vidéo, vous en connaissez plein, où il y a effectivement du faux semblant et du masquage d'émotions dans des situations qui, pour ne pas perdre la face. Ou au contraire, pour théâtraliser une colère de prof, j'ai filmé des colères de prof avec des hurlements, mais moi je suis saisi. Non, mais Luc, c'est une colère de prof. À l'intérieur, tout va bien. Au bout de 7 secondes, je passe à autre chose. Ça me travaille pas, ça ne se poursuit pas. Et au contraire, un débutant qui me dit, ah, je suis encore affecté 30 minutes après. Vous voyez, ces effets d'hystérésis émotionnelle qui jouent. Et je vais cartographier de manière non exhaustive pour simplement commencer à mettre un peu d'ordre, avec peut-être des éléments même surdimensionnés, alors que vous voyez, ce sont des effets de tropisme qu'on peut largement discuter. Alors déjà, il y a tous les travaux de l'ergonomie. Je pense à Jacques Leplat, je vais y revenir dans quelques instants, sur la notion d'efficacité, d'efficience, de prescrit réel, je vais y revenir. Hein. Donc ça, c'est l'ergonomie du travail au CNAM, hein, et avec des collègues comme Christophe Dejour, hein, sur la psychopathologie, hein, sur la souffrance au travail. Il y a aussi des approches psychanalytiques. En éducation, on a bien sûr Blanchard Laville, hein, qui a mené des travaux, mais on est en éducation, on n'est pas sur de l'analyse du travail en ergonomie. Tous les travaux, bien sûr, du psychophénoménologue Pierre Vermeersch, qui nous a coûté il n'y a pas très longtemps, sur les entretiens d'explicitation. Je vais tellement vite, François Hubaud, Daniel Hou. Là, on a un certain nombre d'ergonomes, avec à chaque fois des champs épistémologiques différents, avec des fois des querelles, j'en dirai quelques mots après, qui ont vraiment fondé ces approches sur l'analyse du travail. Bien sûr, vous connaissez la psychologie du travail, avec les travaux en clinique de l'activité, Yves Clos, avec plein d'autres collaborateurs qu'il faudrait que je cite maintenant, et qui va être particulièrement sur les notions d'activité réalisée, réelle, sur les dilemmes, le style, le genre. Les travaux aussi en didactique professionnelle, avec Pierre Pastret, bien sûr les travaux de Vergniaud, Patrick Mayen, qui a aussi beaucoup travaillé ces questions-là, Paul Olry, activité productive, constructive, et puis ces notions de potentiel d'apprentissage des situations de travail. C'est-à-dire que toutes les situations professionnelles ne sont pas des situations capacitantes qui vont permettre de la capacité et du potentiel d'apprentissage, mais certaines sont plutôt pertinentes pour ça. J'ai pu, par exemple, pour ma part, repérer des situations professionnelles typiques et critiques chez les débutants, qui sont vraiment des moments décisionnels très forts, des moments de bifurcation en termes de développement professionnel. Et puis, le cours d'action de Jacques Thoreau, là aussi, hein, on est plutôt sur du flux d'expérience, sur de la conscience réflexive, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, sur de la modélisation de l'activité. Alors, avec Marc Durand, qui a beaucoup travaillé dans cette perspective-là, et après toute l'école suisse, hein, avec le laboratoire Kraft, avec Simon Flandin, qui était ici parmi nous il y a quelques années, Germain Poisat et Valérie Lucie-Bauer, aussi un peu en décalé. Et tout le travail qu'on a pu mener, là, c'est plutôt l'IFE, le centre Alain Savary, Patrick Picard, Serge Leblanc, Philippe Vérune, tous les gens qui ont travaillé sur de la vidéo-formation, des expériences typiques et critiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis le label de la chaire UNESCO, parce qu'à l'IFE, depuis une douzaine d'années, on développe ces modalités de travail et on a développé quand même avec des collaborations internationales le programme Neopass. Et c'est le seul programme au monde. Je dis ça avec toute la mesure qu'il faut avoir par rapport à ça. Ça a été remis en avant. Un programme de milliers de vidéos sur de la vidéo formation avec une épistémologie, avec une entrée et une identité par rapport aux situations de travail. Repérer des situations ordinaires de travail avec des captations, avec systématiquement l'expérience au travail. Et puis un certain nombre de pairs, d'experts, de chercheurs qui, par leur point de vue décalé, donnent de l'intelligibilité aux situations, voire des pistes possibles de transformation de ces situations-là, pour repérer du typique, du critique, du genre, du style, si vous préférez. Et puis, bien sûr, après, hein, on ne peut pas non plus oublier les théories beaucoup plus internationales, cette fois-ci sur Engenström, par rapport, en tout cas, à ces systèmes d'activité ou tensions en contradiction, et puis aussi d'autres éléments. Alors, bien sûr, on n'est pas sur les instruments à la Rabardelle, on est ailleurs. Ça serait aussi une approche qu'il faudrait mettre en avant. Anthropologie culturaliste aussi, avec des collègues, Stéphano Berton et Chaliès, qui ont continué de développer des questions. C'est absolument pas exhaustif. Où situer Dominique Bucheton, par exemple, par rapport à cette galaxie-là, puisqu'elle a été très sensibilisée à une époque aux travaux en ergonomie, elle vient de la linguistique. C'est assez compliqué d'arriver à la positionner dans cette perspective-là. Et puis il y a aussi Isabelle Vinati, on pourrait aussi la mettre, bien sûr, dans la didactique professionnelle. Bon, on oublie plein de personnes, mais c'est pour vous montrer un peu cette cartographie ou cette galaxie-là. Et donc, si je reprends quelques éléments essentiels, phase visible et invisible de l'activité, j'y reviens pas, distinction fondamentale entre le travail prescrit et le travail réel. Et là, pour moi, c'est une, si on avait à définir l'activité, de comprendre les prescriptions, de prendre le temps de lire les prescriptions, mais aussi de comprendre le travail réel des acteurs, actrices en situation, et de voir toutes les difficultés Alors ceci, hein, c'est commun aux trois ou quatre courants que je vous ai présentés tout de suite, hein. De comprendre comment des enseignants débutants se sortent de la prescription et des prescriptions intenables pour eux pour faire face à la classe, pour essayer de tenir d'abord l'ordre dans la classe, parce que c'est souvent une des préoccupations majeures pour eux, et de pouvoir faire en sorte d'être pas trop loin par rapport aux prescriptions. Et je montrais il n'y a pas très longtemps avec Patrick Rayou, lors de ses journées d'études, deux néos, ça date d'une quinzaine d'années, qui étaient en train de braconner contre l'institution, donc filmés et sans problème, en disant, tu vois, ça a plus jamais, hein, tu vois, on s'en fout des formateurs, formatrices, on s'en fout des inspecteurs, mais on va systématiquement, lorsqu'on voit que c'est le bazar dans la classe, commencer par un petit texte à trous pour pouvoir calmer tout le monde, se repositionner et enfin redémarrer la leçon telle qu'on aurait voulu que les inspecteurs, inspectrices le souhaitent. Et donc ici, ça montre ici que parfois on ne peut tenir les règles, on peut ne pas tenir les prescriptions, et qu'il faut prendre au sérieux ces acteurs pour qu'ils trouvent leur place et qu'ils soient le plus efficaces, efficients dans cette situation-là, peut-être en renormalisant cette prescription, ou en ayant des activités provisoires, des compromis provisoires, qui leur permettent de tenir dans leur métier au quotidien. Bon, je ne vais pas plus loin, mais je crois que le centre Alain Savary est tout à fait sensible à cette perspective-là, de pouvoir trouver cette économie personnelle entre des normes objectives et des normes subjectives liées à ma propre façon de percevoir le travail et en fonction aussi de mes propres ressources et en termes aussi de santé mentale pour pouvoir tenir un travail dans des situations de tension, d'épreuve, avec oui, je devrais faire ça, mais je fais ça. Parce que je ne sais pas faire autrement, et c'est peut-être en faisant ça que je parviendrai un jour à faire ça. Donc, vous voyez ces écarts, ces distorsions de normes subjectives et objectives. L'activité réalisée, l'activité réelle, et ici je me réfère à Claude, c'est vraiment de dire que l'activité que je réalise maintenant, l'orientation que je donne à mon discours vis-à-vis de vous, c'est une des orientations possibles parmi d'autres. J'en oublie. Il y en a d'autres qui me tiraillent en même temps que je vous parle. Et ça, on le retrouve aussi chez Thoreau, on le retrouve dans toutes ces épistémologies où on s'intéresse à l'activité et au travail en situation. C'est un choix parmi d'autres. Donc il y a une forme ici de deuil à faire par rapport à l'ensemble des autres préoccupations qui étaient les miennes. Et parfois, je ne suis pas capable de vivre des dilemmes, des trilemmes, des quadrilemmes, et que, surtout les débutants, ils effacent une partie du monde pour pouvoir tenir deux lascars perturbateurs. Alors même qu'ils avaient d'autres objectifs par rapport à la situation. Donc c'est un dilemme qui est pour eux incommensurable, fatal, et qui bien sûr les met à l'épreuve, ces dilemmes-là, puisque l'activité réelle est plus complexe, et bien sûr que dans les prescriptions, on peut les oublier en partie dans ces perspectives-là. Donc vous voyez, il y a toujours un écart, une sorte de réduction. Et c'est toujours intéressant de voir l'activité réalisée et d'aller ensuite enquêter pour comprendre les autres préoccupations en sourdine, celles qui sont dans l'expérience et qui peuvent bien sûr perturber l'acteur en situation. J'aime aussi beaucoup cette notion dans la didactique professionnelle de distinction entre activité productive et constructive. C'est à la fois l'activité permet d'agir sur le milieu, sur l'environnement, sur la situation, avec une transformation possible de cette situation. Mais aussi d'agir sur moi-même. Vous voyez, ici, on retrouve les perspectives aussi de Piaget, et puis cette notion même de construction de l'acteur ou de l'actrice en même temps qu'il agit sur la situation. On retrouve ça chez Varela au niveau du cours d'action. Donc, vous voyez, ce sont quand même des éléments qui sont très, très transversaux par rapport à ces épistémologies. Bien sûr, on n'est pas dans les mêmes paradigmes entre Piaget d'un côté, Varela de l'autre, Vallon. Enfin, voilà, on est à chaque fois sur des lignes de crête différentes. Mais on peut quand même retrouver ces dénominateurs communs, activité productive de transformation du monde, plus ou moins possible, mais aussi d'activités constructives. Et des débutants, par exemple, passent plus de temps à se construire dans leur propre activité qui stabilise progressivement une identité professionnelle et ont peut-être parfois de la peine à être efficaces en situation. Et des inspecteurs ou des chefs d'établissement débutants me disent exactement la même chose. Là, j'enquête, je me construis, là, j'apprends. Et je me sens absolument pas légitime encore. Et vous voyez, des fois, cet équilibre compliqué à trouver pour mettre en avant dans ce rôle, dans cette nouvelle tenue, dans ce nouvel habit, qu'on est à la fois un peu efficace en situation, alors même qu'on est en train de se construire. Mais c'est dans tout métier. Enfin, je veux dire, c'est la même chose avec des recteurs débutants qui, bien sûr, vont avoir une activité aussi d'enquête en permanence. Donc pour moi, le développement professionnel, c'est vraiment le changement de sens dans une activité. C'est-à-dire que un débutant perçoit une situation de telle façon, avec des indices de chahut, de bruit, de perturbation, etc. Quelques mois après, on voit qu'il ne prélève pas les mêmes indices dans la situation, il n'est pas sensible aux mêmes choses, il comprend que le but n'est pas d'attendre l'ordre pour pouvoir se mettre au travail, mais que c'est le travail qui va favoriser de l'ordre, et que cette révolution copernicienne est excessivement importante pour lui, et que ça montre que il perçoit autrement la situation. Et la situation qui était pour lui vécue comme un obstacle ou une résistance peut devenir une offre potentielle d'activité avec des opportunités à prendre. Et là, c'est un changement radical de sens dans la façon de percevoir les choses. Qu'on soit dans des sports, dans des pratiques sportives, dans des pratiques culturelles, dans des pratiques de tous les jours, cette donation de sens et ces transformations de donation de sens sont pour moi les témoins de ce genre de bifurcation par rapport à ce développement professionnel. Il y a développement professionnel lorsque dans une temporalité plus ou moins longue, et pour moi c'est plutôt des temporalités longues, pour moi il y a transformation de l'activité professionnelle et développement professionnel, on est sur des temporalités et des échelles différentes, produisent des transformations de l'activité de travail positives et durables chez un individu ou un collectif. On peut parler de développement professionnel individuel et collectif aussi, mais la transformation ponctuelle de l'activité avec des micro-apprentissages ne signifie pas forcément développement professionnel. Il y aurait des heures à prendre maintenant pour expliquer ou voir comment on se positionne. Est-ce que c'est mon développement professionnel qui va quelque part déterminer mes actions potentielles dans la classe? Ou est-ce que c'est par ma construction et la transformation de mon activité que je vais in fine produire du développement professionnel à un autre niveau? Bon, c'est des questions qui sont toujours pas résolues de par tous les scientifiques et les épistémologies du XXe siècle, et puis bien avant même, mais qui nous interrogent, qui nous réinterrogent. C'est l'accompagnement du développement professionnel, pour moi, dépasse l'entraînement des apprentissages ou des simples apprentissages. Et on pourrait imaginer ici un développement professionnel qui s'accompagne avec quatre leviers. Bien sûr, la transmission des routines, des savoir-faire, des gestes professionnels, et que c'est normal de pouvoir acculturer, par exemple, les débutants ou les premières années, les collègues en premières années d'expérience professionnelle, avec ces outils-là, etc. Mais c'est aussi avoir cette sensibilisation par rapport à une éthique professionnelle, une culture de métier, une culture d'établissement, une culture éventuellement intermétier. Et là aussi, hein, c'est-à-dire que les collègues, lorsqu'il y a des changes, des shifts ou des transformations même de leur développement professionnel, peuvent aussi être directement sur des éléments même d'éthos, d'identité. Une chef d'établissement, par exemple, quand on filme 18 mois plus tard, après une situation d'interaction avec un élève dans sa classe et un appel aux parents, elle dit « Non, je fais plus comme ça maintenant. » Et elle décrit non pas tant, elle peut décrire ses procédures et ses routines, mais ce qui nous intéresse, c'est de dire « Moi, la relation que j'ai aux élèves en difficulté, c'est plutôt comme ça que je vois les choses 18 mois après. » Et puis, je vais faire appel au collectif, je vais faire appel à l'expertise collective, et on voit que ça touche autant des questions d'éthique professionnelle, de sens par rapport aux élèves, même décrocheurs, que par rapport à des procédures particulières. Et puis aussi, vous voyez, ces notions de care, d'encouragement, de soin, prendre soin des débutants. Alors, on est aussi des fois un peu agacé dans l'accompagnement, de voir des décalages par rapport à la façon de vivre le métier. Avec de dire, mais c'est pas normal, il est insensible à ça, et pour moi c'est essentiel, on n'a pas le même feeling par rapport au métier. Il faut aussi accepter ces décalages intergénérationnels, interpersonnels, interdisciplinaires, et qu'il y ait aussi du soutien, de l'encouragement, et puis aussi prendre le temps de pointer des difficultés sans être dans une approche critique et évaluative, mais aussi reconnaître les progrès et les réussites. Et puis, c'est le point le plus essentiel pour moi, c'est de dire que. On est dans une perspective, on va favoriser, entraîner les acteurs et actrices à être réflexifs et à pouvoir produire de la réflexivité. Alors là aussi, on va pouvoir prendre le temps d'expliquer ce qu'on entend par réflexivité et en quoi les outils d'analyse du travail favorisent ce type de réflexivité. Et j'aimerais ici, donc, après avoir accédé, avoir montré un peu cette complexité d'appréhender l'activité professionnelle, insister un peu quand même sur un cadre éthique de collaboration avec ses collègues, et puis après revenir directement aux outils d'analyse du travail. J'essaye de mettre des éléments qui sont non pas exhaustifs, mais qui me semblent essentiels en termes de règles d'or. Appelons ça règles d'or. Dans la collaboration, ce n'est pas tant le formateur ou la formatrice qui les porte, mais c'est le collectif qui doit s'imprégner de ces règles d'or et en tout cas les mobiliser en situation. J'insiste beaucoup par rapport à ça. Pour que ça ne soit pas juste la formatrice ou le formateur qui dise hop, 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 vous allez trop loin dans la critique et vous tombez dans une approche un peu personnelle par rapport à la critique, mais que vraiment ça soit le collectif qui prenne conscience et qui porte ces questions d'éthique par rapport au métier. Prendre soin du métier. Enfin, voilà, je pense que ces problématiques de care sont aussi assez importantes et j'aimerais en tout cas les mettre en avant. Dans un premier temps, je note dépersonnifier l'activité observée pour en faire un objet partageable de transformation. Ne pas se voir dans l'activité et valoriser des éléments même que j'ai dans ma propre façon de vivre le métier. Vous voyez, comme si un praticien disait, mais attends, là, c'est un problème de bassin au niveau de la motricité, parce que lui, il a un problème de bassin, mais ce n'est pas du tout forcément le problème du débutant ou d'un autre collègue. Donc, pas surfocaliser sur des éléments même qui sont liés à votre propre développement professionnel. Se départir d'eux, ça veut dire à un moment donné, faire une forme d'anamnèse pour se départir de son propre développement professionnel et connaître le développement professionnel des entrants dans le métier, par exemple, ce qui n'est pas la même chose. Donc, c'est avoir en ligne de mire des étapes potentielles de développement professionnel des débutants et non pas votre activité. Et puis vous avez oublié ce que c'est que d'être débutant. Vous n'êtes plus débutant. Et les sensations même d'une prise en main de classe devant un public un peu difficile ou pas seulement, vous ne vous souvenez plus. Mais c'est pourtant assez traumatisant et ça peut être émotionnellement quand même très dur à vivre pour ces collègues-là. Donc, faire de l'activité un objet, je décale un peu là, mais faire dépersonnifier, c'est vraiment être dans une approche non biographique. Alors, c'est une prise de position, parce qu'il y a des collègues qui ne travaillent pas comme ça. Les collègues qui travaillent sur des approches psychanalytiques ou qui ont d'autres approches vont aller ailleurs. Voilà l'objet qui est le mien et qui est partagé ici par un certain nombre de collègues, dont les ergonomes que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça veut dire qu'on en fait une praxis qui est à la fois visible et invisible. Bien sûr qu'il y a une part de personnalité dans l'activité, mais on essaie de dépersonnifier pour en faire un débat public, pour objectiver des éléments même de cette activité qui pourrait être la mienne, qui pourrait être la vôtre. Et on peut imaginer se mettre à la place d'eux et emprunter l'activité d'autrui. Vous voyez, un peu comme sur une vidéo où on va faire un arrêt sur image, on dit voilà, là, cette activité-là, voilà ce qui se joue. On peut documenter la situation et en même temps, on pourrait rejouer la scène. Et là, comment on pourrait faire autrement? Comment tu pourrais endosser cette activité et la déployer autrement? Et là, il y a tout un travail très fin, éventuellement, où les scénarios, où les scénaristes sont pour être intéressants, et on y va ensemble, on se retrousse les manches, et on essaye de trouver de nouvelles pistes. Ah ouais, ça, j'avais jamais pensé à cette perspective-là. C'est déjà un niveau intéressant, parce qu'on n'est pas en train de culpabiliser la personne par rapport à quelque chose qui n'est pas bon, mais on dit, mais ça aussi, moi, j'ai vécu. Cette situation-là, par exemple, je l'ai vécu régulièrement. Et voilà comment on pourrait faire, mais je ne vais pas te dire comment moi je fais, c'est vrai qu'on compose ensemble, ou qu'un petit collectif apporte des solutions qui ne soient pas celles de l'inspecteur-inspectrice ou du formateur qui va dire ben, « évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire ». Donc il faut, alors c'est un peu une approche constructiviste pour le coup, mais on voit bien les écarts entre la prescription d'une règle qui n'a pas beaucoup de sens pour le débutant ou la débutante, et au contraire, cette prise de conscience des éléments qui jouent, et éventuellement l'enquête qui va être asymétrique, intergénérationnelle potentiellement, ou inter-expertise, avec un débutant qui est a priori moins expert. Et c'est là qu'il faut arriver à faire ces communautés apprenantes qui acceptent de réinterroger l'activité qui pourrait être la tienne, la vôtre. Et vous voyez, par exemple, on met en place une classe inversée, avantages et inconvénients, que font les élèves, cette activité c'est la tienne. Et on n'est pas loin des lesson studies, hein, où il y avait un collègue qui a accepté de jouer une leçon devant observation, dans cette culture de l'observation collective régulière, alors que nous, dans le premier degré, ça a mis du temps, hein, pour commencer à ouvrir les portes de classe. Bien sûr qu'en quelques années, ça a énormément évolué. Il y a encore du travail à faire sur ces questions-là. Donc, pour en faire des objets partageables de transformation, d'études. Donc là, on n'est pas en train de dire « mais toi, t'es trop timide » ou « toi, t'es... » Non, on n'est pas là. On est en train de repérer l'activité, incarner chacun et chacune avec ses propres ressources et compétences. Plus on analyse le travail réel, moins on est dans les projections idéologiques et personnelles. Et là, c'est pour ça qu'on essaye d'être factuel, de documenter, de se servir du visible et de l'invisible pour pouvoir construire une enquête avec des éléments d'objectivité. C'est de l'objectivation, de la subjectivation. OK, mais on peut le faire et les collègues professionnels peuvent aussi être entraînés à faire ça, à mettre des mots sur ces mots AUX et progressivement à avoir beaucoup plus de discernement. Ça m'est arrivé tellement de fois d'avoir des débutants qui ont trois mots à mettre et qui sont pas capables de mettre des mots sur leurs propres expériences. Mais au bout de quelques séquences, c'est impressionnant les progrès, hein, et puis une forme de vigilance critique qui se prolonge dans les classes. Lorsque je suis en situation, je me souviens de la situation que j'ai pu voir avec un tel lors d'une analyse vidéo. Et je suis en train de penser au scénario et ça me donne. Voilà, j'ai shifté parce qu'effectivement, c'est l'activité observée d'une autre collègue qui m'a permis de shifter à un moment donné. Donc ça peut aussi construire une compétence, un répertoire avec des scénarios différents. Contractualiser les conditions de collaboration, définir les buts, les intérêts, les critères de confidentialité, jusqu'où on va. Ça peut m'arriver de faire des photos et de les supprimer. Et de les supprimer dans ma poubelle pour montrer que je ne garde rien. Malheureusement, ça peut nous arriver aussi de filmer des collègues qui ont accepté au départ, mais qui comprennent que les enjeux sont importants et qui n'ont plus envie d'apparaître. Alors voilà, est-ce qu'on les floute? Est-ce qu'on fait autrement pour quand même pas perdre la situation professionnelle? C'est des questions qui nous interrogent depuis 15 ans et on a un peu d'expérience là-dessus. Et on sait que maintenant, dans le second degré, on a quand même des conseils d'administration qui prennent ça au sérieux, qui comprennent que c'est aussi de la formation continue en établissement, que les vidéos ne doivent pas sortir de l'établissement, que ce sont des traces d'activité au sens générique, et qu'on arrive à avoir cette culture-là, et que en général, je dirais qu'à 70%, 70%, j'obtiens des volontaires qui veulent bien être filmés dans les classes, et qu'il y a toujours une frange de 20-25% des collègues qui refusent. Il faut accepter ces refus. Ses collègues vont se nourrir des allo-confrontations, des confrontations à autrui, dans cette position d'observateur un peu extérieur. Et puis des fois, il y a des collègues qui acceptent au bout de quelques jours, quelques mois, de dire, oui, moi je suis prêt maintenant, j'ai compris comment vous travaillez, je comprends comment vous prenez soin des acteurs et qu'on n'est pas là pour être jugé à l'emporte-pièce et qu'on va pouvoir éventuellement faire partie de cette communauté. Je veux bien donner moi aussi de moi si j'ai beaucoup appris par les autres. Bon, et puis donc autoriser un jugement, on peut faire des évaluations à un moment donné lorsqu'on a réuni des conditions qui favorisent. Tu cherchais à faire ça, c'est ce qu'on a compris de ta situation, on a compris ta situation et on comprend que tu es un peu frustré par rapport à la situation, donc c'est toi qui considères que cette situation est assez insatisfaisante et on va chercher ensemble d'autres solutions. Oui, donc on peut objectiver à un moment donné une frustration, un objectif qui n'est pas atteint.